C'est Anne qui nous a apporté cette cassette. Anne, c'est donc des chansons de l'armée de libération de Chiapas.
Oui, alors ça, c'est un tout petit groupe de jeunes zapatistes qui vivent à la Realidad et qui, bon, assez maladroitement parfois, mettent en chanson toute la saga. Et là, c'était une chanson qui concernait l'année 94 et ils essayaient de... Enfin, ils refaisaient un petit peu l'histoire pour nous. Et voilà. Ils jouent avec des vieilles guitares, généralement. Ils ont peu d'instruments. Ou un vieux crin-crin, des violons.
Histoire pour nous aussi, donc histoire du Chiapas et de votre voyage cet été lors de cette rencontre intercontinentale ou intergalactique pour l'humanité contre le néolibéralisme à l'invitation de l'armée de libération zapatiste auquel vous avez participé, Pierrette et Anne. Et toi, Viviane, ça te rappelle des souvenirs puisque tu y étais à Noël, donc tout à coup un débat qui se poursuit après cette visite ici en Suisse, et c'est pour ça aussi que nous avons envie d'en parler, d'en remue-ménage, parce qu'il y a un retour qui se concrétise, qu'il y a des discussions qui se poursuivent ici, et dont l'envie d'en savoir encore plus pour savoir ce qui va suivre.
Alors effectivement, il y a eu donc cinq thèmes qui ont été discutés chacun donc dans un lieu. Alors bon, il y avait les grands thèmes, ça a été la table 1 qui était la politique, de quelle politique disposons-nous et de quelle politique avons-nous besoin, qui était le thème discuté à la Realidad. Alors c'était le lieu, je pense, c'était un des endroits très courus puisque la Realidad, c'est vraiment, c'est le... La base de Marcos, c'est là où il se trouve. Donc là, si les gens allaient là-bas un peu dans le culte de la personnalité pour aller le voir, ils étaient sûrs de le voir. C'est là aussi que se sont retrouvées une série de ce qu'on a appelé les personnalités. Ensuite, il y avait la table économique qui s'est tenue à Oventic.
À Roberto Barrios.
Roberto Barrios, la question économique, histoire d'horreur. Pierre, tu y étais, tu nous en parleras. La table 3, toutes les cultures pour tous et les médias, des graffitis au cyberspace. La table 4, existe-t-il une société qui ne soit pas civile? Celle-là, donc, elle restait authentique. Et Anne, tu y étais, tu nous en parleras. Et finalement, la table 5, sur la question indigène, plus particulièrement, beaucoup de monde tiennent dans ce monde. Il faut peut-être encore préciser que ce n'était pas une rencontre spécifiquement indigène, mais bien une rencontre internationale. Et donc, c'était des gens du monde entier qui venaient. Les indigènes du Chiapas recevant les gens. C'était pas eux qui étaient les moteurs principaux de ces réunions. Alors, qu'est-ce qui s'est un peu passé? Déjà, concrètement, comment s'organisaient ces discussions?
Il y a quelque chose peut-être aussi à préciser, c'est que on était témoins, quand on arrivait dans les différents Aguascalientes, que vraiment les Indiens ont construit ces Aguascalientes, ces lieux de résistance qui devaient nous accueillir de leurs propres mains, de leur propre volonté, et que c'était un signe véritable de paix. Alors que le gouvernement mexicain les accuse de faire croire, il veut faire croire que ces communautés veulent la guerre. Et là, on voyait vraiment que c'était un havre, justement, où on était à la fois reçu et où on avait besoin d'échanger. C'est toute la force des apatistes, disons. À partir de cet échange, doit surgir quelque chose. Et ça, c'était important d'avoir ces cinq lieux de réunion. Et donc, le lendemain de la grande réunion commune, nous avons pris les peseros. Les peseros sont ces bus... Souvent très usé par l'âge, il faut reconnaître, qui s'embourbait. Nous, personnellement, donc nous avons passé d'une altitude de 2500 à 3000 mètres et nous sommes allés du côté de Palenque, le haut lieu touristique où il y a les pyramides, et nous sommes redescendus à 500 mètres, mais nous avons mis 14 heures de route. Et il y a eu des moments épiques, comme il venait de pleuvoir, les bus s'enlisaient dans la boue, on n'arrivait plus à sortir, tout le monde s'y mettait pour les repousser. alors qu'il paraît que c'est un trajet qu'on, avec un bus normal, on fait en 5-6 heures, on a mis 14 heures. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai encore dans ma vision l'endroit où nous arrivions près d'une rivière. Et près de cette rivière, il y avait justement un camp de l'armée mexicaine. Alors tous les bus ont été arrêtés et le commandant du camp de l'armée voulait que nous sortions et voulait, d'une certaine mesure, nous ficher. Et grâce à l'intervention des apatistes qui étaient avec nous, il a simplement pris les noms. Mais nous avons tous dû descendre du bus à pied avec nos bagages, traverser la rivière à gué, sous l'œil des militaires qui nous regardaient d'un air plus ou moins pacifique. Mais enfin, nous n'étions pas trop rassurés. Et ensuite, nous sommes arrivés devant l'Aguascalientes qui s'appelait donc Roberto Barrios, et qui se trouvait à quelques kilomètres des fameuses pyramides de Palenque, dans un climat chaud et tropical. Mmh. Et alors après, dans chacune de ces Aguascalientes, nous avons été reçus la même chose, de nouveau par des danses, et un accueil des communautés qui étaient là, et nous avons été très surpris, très vite aussi, par le rôle qu'avaient joué les femmes et les enfants dans cette communauté. Au début, ils se sont montrés très discrets, ils étaient près des clôtures. Et puis, les jours avançant, tout le monde participait, venait avec nous, participait aux soirées, parce qu'il y avait des discussions dans toute la journée, pendant toute la journée. Et le soir, il y avait des soirées entre eux et nous. Et les indigènes présentaient des productions, et nous, les Européens, l'ont fait aussi le dernier soir. Alors, pendant la journée, donc on s'est réunis pendant 3 jours, 15 à 20 heures de travail au total, et nous avons travaillé en sous-groupes. Donc, dans chacun des Aguascalientes, il y avait des sous-groupes avec des thèmes bien définis. Alors, ceux qui croyaient que les apatistes allaient faire une discussion à tout rompre ont certainement été déçus, parce que la structure des débats était extrêmement formelle. Elle permettait l'intervention des gens au bon moment. Chacun avait le droit d'exposer des ponencias, comme ils appellent ça, c'est-à-dire des interventions préparées à l'avance, qu'on présentait au groupe, qui étaient discutées. Ensuite, il y avait des synthèses. Ensuite, il y a une synthèse de tous les groupes et une synthèse finale qui a finalement été reprise dans la grande rencontre finale à la Realida. Alors, je ne sais pas si je veux... Pour la Mesa Economica, c'était donc l'économie, une histoire d'horreur. C'était le thème que nous devions traiter. Et nous avons pu aborder une série de points tels que... Alors là, il faudrait beaucoup plus de temps, mais nous avons pu aborder des points tels que la dette, des points tels que l'importance du FMI sur les décisions actuelles, de l'OMC, de la Banque internationale. Nous avions avec nous des économistes mexicains qui aussi ont dirigé les débats. Et moi, j'ai trouvé que le niveau de discussion était vraiment très élevé. Alors, tout le monde, il y a eu des interventions dans toute une série de pays, il y a eu des interventions des camarades mexicains qui avaient mené une certaine lutte aussi, donc le 1er mai dernier dans la rue, donc dans la réunion de l'intersyndicale qui s'est créée récemment. Il y a eu des interventions des camarades français. Alors là, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de fusion qui s'opérait, parce que les camarades français pouvaient expliquer comment les grèves avaient eu lieu en décembre aux camarades mexicains, qui d'ailleurs leur avaient aussi envoyé des messages de solidarité à cette époque. Et puis il y a eu des interventions des Italiens, qui font partie des COBAS. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des sortes de communautés de base syndicale active dans certaines villes italiennes. Et sur une série de points, bien que les discussions étaient parfois un peu ardues, on s'est mis quand même d'accord sur une série de points, notamment pour tous, on pensait que la réduction du temps de travail était nécessaire, qu'il fallait absolument, sur la question de la dette, on était tous d'accord que c'était cette politique actuelle néolibérale qui oblige les uns à travailler beaucoup trop, qui met au chômage les autres, et que on en subit tous les effets. Et là, on a véritablement senti les possibilités de lutte internationale commune.
Et du côté du social ?
Alors, du côté du social, ma foi, c'était, je pense que c'était une des tables qui était les plus concrètes, parce qu'il y avait une telle variété de domaines qui peuvent figurer dans le social. D'ailleurs, ça s'appelait la société civile. Et moi, je n'avais jamais entendu vraiment cette expression. Les Mexicains insistent beaucoup sur l'expression société civile. Et j'ai compris, donc, c'est la société qui est non militaire et non politicienne, hein, dans leur esprit. Donc, on avait toute une série de thèmes possibles. On s'est organisé relativement de la même façon que celle que Pierrette a décrite. Alors, on était divisé en société civile non exclue. Le thème de l'exclusion était fondamental. Alors, il y avait les non exclus et les exclus. Et parmi les non-exclus, il y avait toute la question des syndicats, des partis, des ONG, tout ce qui était collectif de tout acabit. Il y avait l'éducation, les enfants, la jeunesse, la santé et l'écologie. L'écologie, je le dis vite en passant parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler beaucoup, qui avait au départ une petite place, mais j'ai été étonnée de voir à quel point la conscience écologiste avait progressé en Amérique latine et dans le monde. Ça, c'était très intéressant. Puis la société civile exclue était constituée par tout ce qui était émigration, prisonniers, malades mentaux, sidéens, sida, pacifistes, antimilitaristes, et puis homosexuels et lesbiennes.
Et les femmes en général.
Et les femmes, alors là, ça a été le grand problème de cette messa. Et peut-être que je vais en parler tout à l'heure. Voilà. Mais je ne sais pas, sur cette série de sujets... Évidemment, ça foisonnait d'expériences particulières. On pouvait avoir un organisateur de barrio, dans un petit barrio de Mexico, qui expliquait comment il s'y prenait pour défendre son quartier, jusqu'à, je sais pas, un écologiste. On partait vraiment d'expériences très, très concrètes, ce qui, d'un côté, était fabuleux, très vivant, enrichissant. D'autre part, je dois dire qu'on a eu quelques peines à tirer ensuite des conclusions plus générales. On a pu constater que les problèmes se posaient partout, mais le point sur lequel on a été les moins forts, et ce n'est pas surprenant, c'était les moments où il fallait faire des synthèses et établir des directions de lutte communes. Ce n'est pas simple. Puis...
Parce que moi, une chose m'étonne, et à la fois me ravit et m'étonne, c'est que les gens qui sont venus là, c'est vraiment les pauvres de la terre, c'est les inorganisés de partout, c'est vraiment les gens sans pouvoir qui sont venus. Parce que les apatistes, volontairement, n'ont pas appelé ni les organisations politiques, ni les grands politiciens, ils ont justement appelé la société civile.
Oui, mais c'est vraiment des gens sans pouvoir, mais des gens qui font, et des gens qui vivent, luttent, et des gens qui luttent, tout petits parfois, et pas toujours tout petit, parce qu'il y avait des gens aussi très expérimentés. Hein, il faut pas... C'est ça qui était passionnant, c'était la diversité. Il y a des gens qui se sont tus et qui ont écouté tout le temps. Il y avait une grande majorité de gens très jeunes qui n'avaient pas encore un passé, une histoire politique ou de lutte très claire, mais qui la cherchaient. Et ce qui a eu d'étonnant, c'est que tout le monde a réussi à s'écouter et à s'entendre. Mais c'est vrai que le niveau n'était pas toujours c'est pas absolument mémorable, mais ça avait une qualité de vécu qui était très passionnant.
Alors, on m'a raconté, parce que moi, j'y étais pas, bien sûr, et ça, c'est une des choses aussi qui m'a plu, c'est cette espèce de, effectivement, lien entre les anciens et les nouveaux, qui a représenté le fait qu'il y a des vieux qui sont venus, beaucoup de jeunes, et parmi ces vieux, des vieux qui ont un poids, puisqu'il y avait entre autres les fameuses mères de la place de Mai d'Argentine qui étaient là. Il y avait le fameux guerriero vénézuélien Douglas Bravo, je crois que c'est, je sais pas, c'est oui, 50, oui. 60, c'est vraiment très vieux. Et puis Hugo Blanco aussi, du Pérou, de la guérilla pérouvienne. Donc il y avait ces vieux guerrieros qui maintenant ont rendu les âmes, qui sont venus et qui ont fait peut-être le lien des anciennes luttes et de ce qui se passe aujourd'hui.
Voilà, c'est ça qui était magnifique, c'est qu'il y avait des cheveux blancs à côté de des cheveux de toutes les couleurs. Non, c'était vraiment ça, très très bien. Et puis juste encore un élément qui m'a frappée, moi, c'est que le sud découvrait le nord, et ça, je crois que c'est très important, hein. Nous, venant du Nord, on lit, on a une information, on connaît un peu, disons, hein, ce qui se passe au Sud. Mais j'ai vraiment eu l'impression que les Mexicains qui étaient là, les Latinos qui étaient là, ont découvert avec étonnement ce qui se passe dans nos pays développés, et que l'image véhiculée sans doute par l'Amérique... pour eux, par rapport à nos pays développés, ne tenaient plus. Ils se sont rendus compte de tous les problèmes que nous avions. Je me rappelle d'avoir une discussion sur l'exclusion, sur le suicide en Suisse, quand on leur raconte que les gens dépriment, que les gens vont se suicider. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire comprendre à un latino-américain. Et à la fin, à la dernière séance, tout le monde était rassemblé et un jeune squatter espagnol a fait une déclaration qui m'a personnellement beaucoup touchée. Il a remercié les gens, il a remercié les indigènes d'avoir accueilli notre pauvreté. Et j'ai trouvé la formule très juste. Finalement, on y allait aussi en demandeur. Et ce qui est apparu, c'est que nous, les riches, nous sommes les pauvres à bien des égards. Il y avait ce renversement. Et ça, c'était beau.
Et ce qu'il y avait aussi de très bien, c'est que rien n'était trop organisé, c'est-à-dire qu'il y avait des représentants de pays comme Chili, Haïti, et même il y avait une bonne représentation de Cuba aussi, qui ont pu faire des rapports sur la situation actuelle dans les pays. Donc on avait aussi, pour ceux qui ne connaissaient pas tellement la situation de l'Amérique latine comme Européens, c'était une bonne occasion. Enfin, j'ai l'impression qu'après, il y a des revues qui se vendaient, donc les gens lisaient entre deux. Et moi, j'ai aussi eu des contacts avec des femmes chiliennes qui font aussi tout un travail maintenant de prise de conscience au Chili et qui avaient des revues, ce serait peut-être un prochain sujet, qui avait des rues extraordinaires. Et on avait même dans la délégation suisse un camarade turc qui était avec nous, et lui donc dénonçait, c'était juste à l'époque où, en juillet là, où il y avait tous ces participants aux grèves de la faim qui sont morts en Turquie, hein, contre la répression. Et lui, il a pu faire à plusieurs reprises un appel, une discussion avec les apatistes, et les apatistes qui étaient là, et les gens d'Amérique du Sud étaient très intéressés aussi par cette lutte en Turquie et de savoir comment la répression, eux, les avait menacés. Et ce contact entre les différents militants, avec une certaine expérience aussi, les jeunes qui apprenaient aussi, mais qui participaient aussi avec leur vécu, tout ça, c'est une richesse finale des groupes. Alors, peut-être des fois plus encore dans les contacts informels pour certains que dans les messas, ça dépendait aussi de ton niveau, de ce que toi tu retirais aussi de la table où tu étais, ou des discussions. Mmh.
toujours dans Remue-Ménage, Onde Femmes, Radio Zone 93.8 et nous évoquons la rencontre intercontinentale pour l'humanité et contre le néolibéralisme qui a eu lieu au Chiapas au mois de juillet dernier à l'appel de l'armée de libération zapatiste.
Oui, alors je voudrais encore dire quelques mots sur les syndicats parce que c'était quand même un des points très très chauds de ma messa. Et bon, moi, je ne suis pas syndicaliste, je ne connais pas très bien le problème d'une manière générale, mais ce qui est ressorti, il y avait un constat partout, une déception qui s'exprimait sur la situation dans le monde entier, la position qu'occupent les syndicats, et une insatisfaction très grande qui s'est exprimée. Alors, partout, on pouvait constater que les syndicats étaient usés, qu'ils avaient perdu contact avec la base, et a été évoqué, discuté, toutes les possibilités de revivifier les syndicats, d'en faire des organes plus réels, qui s'occupent non seulement de la question économique pour leurs syndiqués, mais qui prennent en compte un contexte plus large. Leur éducation, leur vie, la vie des gens, leurs désirs, leurs besoins, etc. Donc ça, il y avait une description assez riche de ce qui aurait pu arriver. Et au niveau de l'éducation, sur la discussion sur l'éducation, moi j'ai appris des choses qui m'ont fait dresser les cheveux sur la tête. J'ai appris par exemple que le budget de l'éducation au Mexique est de 1,5%
du budget
général, du budget national. Et que les syndicats des enseignants avaient fait quantité de propositions de réforme de l'enseignement, c'est quelque chose qui ne marche pas du tout là-bas, et que tous les programmes actuellement qui sont les programmes et les méthodes sont tous importés de l'étranger, notamment des États-Unis. Et on nous a dit que les écoles avaient tendance à devenir de plus en plus techniques pour former des gens techniques, qu'on perdait toute la dimension humaniste dans les écoles latino-américaines et que notamment l'éducation indigène était en régression. Les zapatistes nous ont fait une description qui était assez triste, je dois dire, de la situation des écoles dans leur communauté, dans leur région, dans le Chiapas, qui sans doute pourrait être répétée pour toutes les régions indigènes du Mexique, à savoir qu'actuellement on tend à supprimer le nombre d'écoles au lieu de les renforcer, que les maîtres qu'on leur envoie ne parlent pas les langues indigènes et sont donc tout à fait à côté de la plaque, ce qui fait que l'enfant s'ennuie très rapidement, laisse tomber, il ne rencontre absolument pas ce qu'il lui faudrait, et que aussi les salaires évidemment sont tellement lamentable que je ne peux pas articuler un chiffre. Donc on a tourné autour de ces sujets-là, c'était intéressant. Évidemment, c'est difficile de faire une synthèse actuellement de tout ça.
Juste une chose, comment les jeunes intervenaient dans ces moments-là? Parce que vous disiez, il y avait beaucoup de jeunes. Alors, c'est des sujets qui, tout ce que vous avez relaté, évoque beaucoup une pratique de travail, souvent, etc. Il y avait des sujets qui intéressaient les jeunes en particulier dans ces différentes tables?
Alors, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont allés dans la table économique, où ont été traités quand même des sujets plus politiques. Et là, il y a une grande participation sur des thèmes de la question du pouvoir, comment prendre le pouvoir, est-ce qu'il faut aller par des élections parlementaires, ou est-ce qu'il faut prendre le pouvoir par une guérilla. Enfin, toutes ces questions-là de fond, elles intéressaient beaucoup les jeunes par rapport aux avances du néolibéralisme, qu'est-ce qu'il faut opposer, comment s'opposer politiquement aux effets du néolibéralisme. Bon, alors nous n'y étions pas dans la Mesa Politica, mais nous avons quand même entendu des comptes rendus des autres camarades suisses qui y étaient. Et c'est pas un hasard que dans la délégation suisse où nous étions donc 30, une vingtaine, pratiquement 18 à 20, sont allés dans la Mesa Politica et la majorité des jeunes étaient là aussi. Et je crois que les jeunes ont beaucoup participé, ont reposé des questions de fond. Peut-être c'était plus des questions de fond qui étaient posées dans cette Mesa-là. Et à ces questions, elles sont peut-être restées encore sans réponse. Certains ont eu l'impression parfois que c'était beaucoup de paroles, peut-être des abstractions, peu de concret. Mais il n'empêche que cette réflexion qui ressurgit dans un contexte où bon, on a tendance à balayer toutes ces questions liées à la politique, liées à la question du pouvoir, c'est de nouveau une prise de conscience qui recommence et que les jeunes sont en train de reporter. En tout cas, moi, j'ai fort espoir. D'ailleurs, je sais que les deux jeunes que j'ai interrogés, qui étaient dans notre délégation, ont pu participer, eux, parce qu'ils ne connaissaient pas bien l'espagnol, à un groupe de jeunes à la Realidad qui parlaient anglais. Et ils ont eu des échanges dont ils sont restés enchantés. En disant là, au moins, on a rencontré des jeunes de tous les autres pays, ça a beaucoup discuté, c'était vraiment... Et ils sont rentrés enthousiastes.
Alors, au-delà de 6 heures, eh bien, nous évoquerons la question des femmes.